pareil. Hein.
Très exactement 15h sur Fréquence Mistral. Alors Dominique s'est présentée toute seule, donc vous l'aurez compris, oui, je suis en compagnie de Dominique pour un nouveau numéro de Voyage au fil des mots.
Oui, j'allais dire qu'effectivement, pareil que là, il y a 15 jours, je vais encore écorcher des noms, je sens que je vais écorcher des noms.
C'est pas grave, on aime bien, ça donne un petit côté exotique à toutes ces histoires. Tu es entièrement pardonnée. Oui, nous continuons notre voyage dans les Flandres.
Ouais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je m'inquiète avec les noms qui sont dans mon histoire encore.
On démarre avec un premier conte, avec un personnage un petit peu roublard apparemment.
Oui, plein de vanité, oui, tout à fait. Oui. C'est une histoire qui se passe à Lille, qui s'appelle La Brasserie de la Tulipe. Autant jadis... Il y avait à Lille, devers le rempart du Calvaire, un lieu singulier qu'on appelait la piquerie. C'était un large espace découvert, sans arbres ni bâtisses, où les compagnons piqueurs piquaient le grès des Ardennes et le moellon de l'Ézène, en chantant la complainte de l'Idéric, en fumant tabac et en buvant canette depuis le petit jour jusqu'à la brune. Quand je dis qu'il n'y avait pas d'arbres, je me trompe. Il y en avait deux. Un tilleul et un noyer, aussi gros que la bedaine du tambour-major des Hurlus, qu'on voit se promener par les rues de la bonne ville dans les fastes de l'île, et qui datait de la construction de la noble tour, au dire des commères du quartier de Saint-Sauveur. Ces deux patriarches barbus et branchus veillaient comme deux hommes d'armes oubliés par la faux de Messire Chrono, à la porte cintrée de la brasserie la plus vénérable du pays de Flandre, la brasserie de la Piquerie, qui, avec ses pignons en escalier, ses petites fenêtres cintrées et ses caves célèbres dans toute la Châtellenie, était le patrimoine des Van Bogert, lesquels vantaient volontiers de se la transmettre de Van Bogert en Van Bogert depuis le jour où le Saint-Esprit avait inspiré au glorieux roi Gambrius l'idée de marier son fils Grain d'Orge et sa pupille Fleur de Houblon. Depuis Saint-Omer jusqu'à Liège, la bière de Van Bogert était réputée sans égale. C'était à ce point que les francs buveurs du Cambrésis faisaient dardard leurs 15 lieues de pays à la seule fin de venir vider un joli verre de bière à la taverne de l'Alouette, rue Saint-Étienne. Or, chacun sait que les Pix, Canette, Camberlo, comme les appelaient révérence parler les bonnes gens de Lille, étaient fameux en ce temps-là par leur soif inextinguible et leur compétence supérieure en matière de beuverie. Quant à Ménère Van Bogert, je ne crains pas de dire que c'était un homme comme on n'en voit pas beaucoup. Il avait une figure large comme le ventre d'un homme ordinaire, jovial, d'une belle couleur de brique et reposant mollement sur un manteau monumental à 5 étages. De mémoire de peinteur, on avait vu à Lille menton pareil, meilleur vivant ni brasseur si gai. Il était si riche que, dans le populaire, il passait pour dissoudre de l'or dans sa bière afin de lui donner bon goût et plaisante couleur. Quand on lui rapportait ces bruits, Ménère Van Bogert riait. D'ailleurs, Ménère Borker riait toujours, même quand le temps était à l'orage et que la grêle rebondissait sur les tuiles de sa brasserie. Or, c'était là de sa part une mémorable preuve d'égalité d'humeur, car la grêle est la pire ennemie des tulipes. Et les tulipes étaient l'unique chose au monde qui intéressait Ménère Van Bogert, en dehors de ses brassins. On le voyait alors sous la voûte de sa porte, solidement planté sur ses deux jambes écartées, les pieds enfoncés dans la paille de ses sabots, les poings sur les hanches et sa vaste bedaine agitée par les saccades de son rire sonore. Il regardait tomber l'eau, de l'air narquois d'un homme qui a de quoi réparer les bévues de la nature. « Oh, voilà du triste temps pour vos tulipes, Ménère !» lui disaient parfois les compagnons de la piquerie. « Oh, 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 oh !» répondait le brasseur. « Celles de Saint-Maurice vont faire de la salade pour les limaçons, fieux, c'est sûr. Oh, 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 mais celles de Tournai n'en gagneront pas moins le grand prix. Oh, 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 et si ce n'est pas celles de Tournai, ce sont celles de Harlem. » Le fait est que Ménère Van Bogert, en homme de précaution, tenait ses plants et semis en partie doubles dans les diverses propriétés qu'il possédait dans les Pays-Bas, de sorte qu'il pouvait à peu près, à coup sûr, narguer le mauvais temps, quand tout autre que lui se serait fait du sang noir comme la salive de Belzébuth. Car il faut vous dire que, dans l'ancien temps, la passion des tulipes était chez nous la grande affaire des hommes de richesse, bourgeois, gentilshommes, et qu'il y avait des concours de pinsons, d'orphéons, de courses de chevaux, des expositions de machines et de tableaux. Il n'était pas rare de voir des gens ruinés en moins de rien par l'extravagance de leurs essais ou les dépenses de leurs exploitations, et d'autres enrichis subitement par un triomphe au concours de Bruxelles ou d'Amsterdam, ou bien par la découverte d'une variété inconnue. Mais Ner von Bogert, à qui tout réussissait, était aussi réputé par-delà la frontière pour sa collection de cailleux, qu'il était en deçà pour son jus du houblon. La vérité est que, tout en goguenardant et en ricanant, il tenait encore davantage au grand prix des tulipes qu'aux tonnes d'or que lui rapportaient ses rondelles de bière. Ses rondelles, autrement dit ses tonneaux. Bref, l'année présente devait amener à un grand événement dans l'agréable vie du gros seigneur de la piquerie. Il allait prendre part à son 25e concours, autant vous dire remporter son 25e grand prix. Et il s'était arrangé de manière à célébrer avec éclat son jubilé. Pour ce, il avait engagé le plus fin tulipier des Pays-Bas et des Trois Royaumes, lesquels avaient mis à contribution toutes leurs expériences pour produire quelques phénomènes extraordinaires, c'est-à-dire une tulipe telle que les yeux d'un mortel n'eussent jamais contemplé, depuis la grotte de Fingal jusqu'au pays des Cosaques qu'on appelle aussi la Russie. Il paraît que les choses marchaient suivant ses souhaits, car jamais les piqueurs de la piquerie, en piquant leurs moellons, n'avaient entendu les joyeux éclats de rire sortir si vigoureux des soupiraux de la brasserie. Et jamais non plus ils n'avaient reçu si abondante largesse et canette, encore que le maître de séant n'en fût pas moins chiche à l'ordinaire. L'affaire en était là et le concours approchait quand, un beau matin, descendit à l'auberge de l'écu d'Artois, rue des Malades, un quidam que personne ne connaissait et qui avait pour tout bagage une cage en osier mystérieusement enveloppée. L'étranger porta dans une chambre sa cage, dont il prenait autant de soin que si elle eût renfermé le fameux caniche des vieux contes qui souhaitait des perles, donna deux tours à la serrure et mit la clé dans sa poche, déjeuna d'une croûte de pain bis, se renseigna sur la demeure de Ner von Bogert et se mit en devoir de gagner la piquerie. Il faisait un temps superbe. Le ciel était si pur qu'on aurait pu compter les mouches qui jouaient au bar autour du coq doré de l'église Saint-Étienne qui, pour lors, s'élevait sur la grande place en face de la grande garde des quais Erlich, n'ayant point encore escarboubillé méchamment la bonne vieille ville de Lille. Dans la piquerie, les piqueurs piquaient et repiquaient comme des sourds, et piquaient poc, et piquaient poc, et piquaient poc. Et dans la brasserie, on entendait une voix de Pantagruel qui beuglait sans débrider. Oh, 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 oh. Le piteux étranger s'avançait à pas compter au milieu de ce tintamarre. « Ner von Bogert, s'il vous plaît » demanda-t-il à un silène en sabots qui mâchonnait un fétu de paille, à califourchon sur un tonneau sous le porche de la brasserie. Oh, « Tu n'auras pas loin à aller pour lui taper sur le ventre, fieu. Excusez, Ner, je ne vous connaissais point. »« Bon, il n'y a pas d'offense. Ner, je viens au sujet du concours de Brabant. Par la panse de Gambrinus, voilà-t-il pas un tulipier bien troussé. » L'habit ne fait pas le moine, Ménèr. Ouais ? Oh, allez, ai-je donc mis, sans m'en douter, la main sur la bombe ? Ou bien est-ce que tu gouailles ? Non, vous avez deviné juste. J'ai peiné fort et longtemps, mais j'ai fini par arriver. Je tiens le grand prix, Ménèr, aussi vrai que vous brassez la meilleure bière de Flandre et d'Artois. Et je viens vous proposer un marché chrétien. Oh, je la connais, la ritournelle, bonnetrier. Voilà 25 ans qu'on me lastrine. Après ça, il n'y a pas de mal, car chacun gagne sa vie comme il peut. C'est au gros singe à ne point s'en laisser remonter par les petits. Allons, avale une canette et détale. L'étranger ne broncha point. C'est votre dernier mot, Ménère ?
Ben oui et non, bon, ça dépend.
Je ne suis point un nègre fin et n'entends point traiter chat en poche. Je m'appelle Ducastel, tulipier au pays de Liège. Sans un sol vaillant, mais ne devant rien à personne. Ce que je dis, je le prouve, et ce que j'annonce, je le montre.
Montrez quoi ?
La tulipe noire.
Une tulipe noire ?
Oh, cela est la plus forte bière que l'on ne m'ait jamais brassée. Oh, l'invention vaut mieux qu'une canette, fieu. Elle vaut au moins une rondelle.
Oui, Ménère, elle vaut même la brasserie tout entière.
Le brasseur se tordait sur sa tonne. Jamais son ventre n'avait dansé si belle sarabande.
Décidez-vous, dit froidement l'étranger.
Oh, oh, allez, top, fieu,
répondit le gros homme, qui pleurait à force de s'esclaffer. « Va mettre du sel sur la queue de ton merle blanc. Il faut du sel rouge, hein, tu sais. »
Le merle est en cage, Ménère. Le merle est en cage. À bientôt. L'étranger s'éloigna d'un pas rapide, laissant le brasseur se trémousser sur son tonneau. Au bout d'une heurette, les piqueurs de la piquerie s'arrêtèrent de piquer, ce qui était toujours l'indice de quelques événements extraordinaires. Le premier dit au second, qui le répéta au troisième, et ainsi de suite.
« Voilà l'homme de tantôt qui retourne à la brasserie. Tout à l'heure, il ne portait rien. Maintenant, il porte une cage. Hey, « Hé, l'homme de là-bas, c'est-il que vous portez le diable en terre ?»«
Ça serait-il pas plutôt des serins en travail de couvée ?»«
Eh non, Jean, c'est bon pour des hommes de se faire traîner par leurs semblables. » Les calembres d'Aisne allaient bon train. Et au fond, sous le grand noyer, on entendait comme une caisse roulante qui répétait toujours
« L'homme à la cage, » tout pâle, se contenta de répondre au gouailleur.
« L'oiseau que je porte, si, mes gars, est une bête comme vous n'en avez jamais vu. Elle est noire, sans poils ni plumes, n'a qu'une patte et pond des œufs d'or. »
Il arriva enfin au porche, qu'encombrait la vaste bedaine de Ménère von Bogert. Là, il déposa soigneusement sa cage, sans mot dire, en montrant d'un geste au brasseur deux personnages vêtus de noir qui débouchaient de la rue des Jésuites.
Oh, oh, la fièvre me sert le gosier, si ce n'est point là Bernard le tabellion avec maître Claire.
Vous l'avez dit, Ménère, j'aime les affaires en règle. Bientôt après, les piqueurs de la piquerie virent les quatre personnages s'enfoncer dans les profondeurs de la brasserie. Ils se remirent à piquer ferme pour regagner le temps perdu, et ils ne pensaient déjà plus à cette petite visite inaccoutumée quand ils virent réapparaître les quatre hommes. L'étranger n'avait plus sa cage, mais son blême visage était devenu rouge. Le tabellion tenait un rouleau de papier, le maître clerc serrait la vis de son encrier et, chose pénible à observer, Ménère von Bogert était silencieux. La semaine après, qui était celle du concours de Bruxelles en Brabant, les piqueurs virent avec stupéfaction six grands fourgons à quatre chevaux traverser le chemin de terre de la piquerie et repartir bourré du mobilier du brasseur, devenu muet comme un poisson. Le lundi suivant, les gens de Lille apprirent que Ménère von Bogert avait remporté son 25e Grand Prix avec un sujet merveilleux. C'était une tulipe noire comme la nuit, la première que l'on vue sous la calotte des cieux depuis que le monde est monde. En raison de cette œuvre de génie qui couvrait de gloire les tulipiers de Flandre en général et la ville de Lille en particulier, le prince des Pays-Bas avait décerné à l'illustre lauréat les honneurs extraordinaires. Tellement qu'à partir de cet événement, Ménère von Bogert ne revint jamais dans sa vieille maison de la piquerie. Ce ne fut que bien longtemps après, quand survint le trépas de l'ancien brasseur, lequel mourut, dit-on, de la noire maladie. Ce qui se dit chez nous pour de l'hypocondrie, que les bonnes gens de Lille surent le fin mot de l'histoire. À savoir
que Mener Van Bogert, plutôt que de revenir bredouille de son jubilé, avait troqué ses brasseries, caves et clientèles, le tout par devant notaire, contre la tulipe sans pareil du sieur du castel de Liège, lequel lui avait incontinu succédé à la piquerie. Il faut rendre à la mémoire du dit sieur du castel la justice de constater qu'il ne souffla mot de l'aventure jusqu'au moment où le dernier des Van Bogert alla goûter le houblon par la racine. Alors il changea l'enseigne séculaire de la brasserie de la piquerie pour celle de la brasserie de la tulipe, dont les Lillois de l'avant-dernière génération ont encore bu le jus doré et vu le porche voûté au fond de la rue de la Piquerie, devenu le rempart du calvaire. À présent, de ce célèbre monument, il ne reste miette. On a fait une filature, là, l'écart tourne en grinçant à l'endroit même où le vent de Mener Van Bogert dansait la sarabande, sous les hoquets gaillards de son propriétaire, et nul ne vestige ne subsiste pour transmettre à la postérité le souvenir de ce lieu fameux. Voilà, comme tout passe dans ce bas monde.
Alors une musique un petit peu inquiétante pour introduire cette histoire, le canoniser malgré lui. Alors qu'est-ce que c'est ce conte ?
Alors c'est d'après une croyance populaire, hein, la naissance d'une légende, comment les gens effectivement, à une certaine époque, fabulaient sur beaucoup de choses. Hein, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a et bon voilà, la moindre petite chose qui leur parvenait prenait des dimensions
mystiques.
Voilà, tout à fait. Donc je pense que ce conte l'illustre très bien. Depuis que le monde est monde, ou pour ne pas remonter si haut, depuis que les temps barbares ou le suffrage universel préfèrent un galérien au fils de Dieu, le véritable jour de l'abomination, de la désolation vaguement annoncée par les prophètes est l'objet des commentaires les plus divers. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, chacun raisonne à sa fantaisie et décharge plus volontiers sur son prochain que sur soi-même les anathèmes des saintes écritures, ce qui est dans l'ordre, mais au demeurant, il n'est juste au pécheur qui n'est dans sa vie son jour maudit, si ce n'est les mâles embouchés et les claques-dents qui en comptent une toutes les 24 heures. Pour les bonnes âmes d'Avelin, baronnie qui relevait du châtelain de Lille pour le temporel et de l'évêque de Tournai pour le spirituel, comme tout le monde le sait, ce fut le jour, le 11 ventose de l'an 7e de la République française, une et indivisible. Car ce jour-là, que les ci-devant auraient platement appelé le 1er mars 1799, la bande noire commença à mettre force pioche dans les murs de l'église d'Entreuil, qui était la principale paroisse du territoire d'Avelin. Cette église était un monument fameux que les anciens seigneurs du lieu s'étaient plu à enrichir et à embellir, si bien que ses vitraux chatoyants, ses hautes voûtes à nervures, ses minces colonnettes, ses rosaces compliquées, ses broderies de pierre, ses frises foulées, ses enfilades de statuettes, ses splendeurs de toutes espèces faisaient la gloire de ce petit pays et l'orgueil de ses habitants. Or, à la suite du glorieux événement qui avait remis le peuple en possession de ses droits, la dite église avait été déclarée propriété de la nation et en cette qualité vendue
comme de juste, pour une bouchée de pain aux gens subtils qui s'apprêtaient maintenant à en faire des mille et des cents. Quand les ouvriers de l'île attaquèrent la tour, qui était ouvrée à juste comme la guimpe d'une marquise, il se trouva parmi les gens qui les considéraient plus d'un bondri pour lever bêche et râteau à l'effet d'étriper ces sacrilèges. Mais alors arriva, à point nommé, un quidam qui leur exposa proprement comme quoi la vente de l'édifice était la preuve incontestable de la souveraineté du peuple, pourquoi sa disparition importait absolument au salut de la patrie, en ajoutant que d'ailleurs les ouvriers séants n'étaient pour rien du tout dans cet événement mémorable, vu qu'ils démolissaient simplement parce qu'ils étaient démolisseurs de leur métier et qu'on les avait payés pour démolir. Ce discours arrêta les gars d'Avelin, encore qu'ils n'y eussent pas compris grand-chose. Ils rabattirent leurs bêches, remirent leurs râteaux sur l'épaule et s'enfurent, en laissant là chacune caqueter comme des pies, enramées et compter une à une les pierres sculptées qui s'émiettaient en dégringlant. Il ne fallut pas plus de 2 décades révolutionnaires pour mettre à bas ce monument que la tyrannie avait mis on ne sait combien d'années à parachever. Au lieu de se dresser audacieusement dans le ciel bleu de sa tour de dentelle et ses cloches capricieuses, comme une aristocrate qu'elle était, l'église d'Entreuil représentait maintenant une belle provision de moellons proprement alignés, comme dans le chantier d'un tailleur de pierre où tout est prêt à être troqué contre espèces sonnantes et trébuchantes au plus offrant. La nation, à la seule exception des gens d'Alvin qui s'obstinaient à n'y comprendre goutte, devait être tout à fait satisfaite du zèle de ses enfants et la bande noire y tout, vu que les brèves affaires sont toujours les meilleures. Or, si hâtif avait été le labeur qu'au bout de 19 jours de besogne à faire suer les pioches de la vieille église, il ne restait à défaire que le pavé de dalle de mosaïque. De celle-ci, les noiraux ne se souciaient mis. Ils y auraient volontiers baillé aux petits gars d'alentour le droit d'en faire des munitions contre noix et pommes, mais les larges dalles bien plates et correctement équarries formaient ce qui s'appelle une belle marchandise à manipuler avec ménagement. Les commères qui assistaient consternées à l'exécution de leur vieille église eurent au moins la consolation de voir qu'après tout on y mettait des formes et que chaque pierre du pavé était déplacée et empilée sur les précédentes avec les égards désirables. Au surplus, ces bonnes âmes buvaient sans le savoir les dernières gouttes du calice d'amertume et elles allaient recevoir en jubilation sainte l'équivalent de leur tribulation. Il était écrit là-haut que l'œuvre devait tourner à la confusion des mécréants à la gloire de l'Église, comme l'on a toujours vu. Voici comment se manifesta l'intervention céleste. Les démolisseurs s'étaient mis après une dalle plus grande que les autres. Et tant elle était lourde, celle-ci, que pour la soulever, force fut d'appeler à l'aide tous les compagnons. L'affaire étant de conséquence, les commères s'approchèrent et avec elles les gars qui bûchaient au champ d'à côté et qui passaient sur le chemin. Ce monde, contristé et goguenard, fit cercle autour des démolisseurs qui besognaient ferme et suédahan. Finalement, la pierre se déchaussa lentement, se souleva, glissa, pivota, en éventrant d'un de ses coins un cercueil qui gisait dans le trou qu'elle laissait béant. Puis, entraînée par son poids, s'abattit à revers en escarbouillant 3 ouvriers et en se brisant d'elle-même. Les gens d'Avelin ne se tenaient d'aise à l'aspect de cette purée, au fond de laquelle ils entraperçaient le doigt de Dieu. Mais ce fut une bien autre affaire quand ils jetèrent les yeux sur la fosse violée et qu'entre les ais disjoints de cercueil, ils aperçurent le visage d'un homme si parfaitement frais qu'il paraissait dormir. Bien que ce mort fût si antique qu'aucun de ses anciens du pays ne le connaissait peu ou prou. C'était un vieillard avec une barbe vénérable qui, à en juger l'armure rongée de rouille qui couvrait son corps, avait dû être, dans des temps reculés, un guerrier comme le glorieux Saint-Maurice. Son cercueil, qui était d'un bois rare, aujourd'hui vermoulu, et son enveloppe de plomb amincie par les siècles et déchirée par le coin de la lourde pierre, prouve la vénération de ceux qui l'avaient enseveli. Et la protection extraordinaire dont l'avait honoré la Providence démontrait clair, comme le jour, que ce personnage devait occuper dans le ciel une place à la dextre de l'Éternel. Quand ils virent ce prodige, les gens d'Avelin furent saisis d'un grand enthousiasme religieux. Ils commencèrent par se prosterner la face contre terre pour chanter la gloire de Dieu sans plus s'occuper des ouvriers démantibulés. Puis ils se précipitèrent sur leur cercueil miraculeux qu'ils mirent en pièces pour en faire des reliques. Et enfin sur les vêtements de la quincaillerie du trépassé qui constituaient des reliques encore meilleures. Ce fut un délire de foi, auquel se mêlait aussi la joie de voir le Seigneur prendre visiblement parti pour ses fidèles et de manifester sa puissance et leurs bénéfices. Ces gens, échauffés, se répandirent par le pays en chantant « Hosanna » et portant en triomphe les reliques qu'ils avaient conquises. Alors ceux qui les entendaient détalaient dardard pour aller quérir leur part de ce butin céleste. Tant qu'il y a que des Templars à Neulin, Pont-à-Marc et au-delà, toute la contrée fut sans dessus-dessous. Des processions de perlins affluèrent des quatre coins cardinaux pour voir le corps du bienheureux, si étonnamment préservé par la pourriture, et qui, le sort du vulgaire des pêcheurs, maintenant qu'on lui avait pieusement volé sa maison, ultime de ses dernières nippes, gisait en sainte nudité au fond de sa fosse. Les favorisés du premier jour, qui avaient eu la chance d'emporter un beau morceau de planche ou une loque importante, divisèrent le plus possible ce souvenir béni afin d'en vendre les fragments aux nouveaux venus. Ils s'en firent de si beaux profits qu'une vieille ménenque, c'est-à-dire une servante, d'Entreuil, conçut la pensée de vendre sa propre défroque et réussit à souhait dans cette damnable entreprise. La Providence ferma les yeux sur ce sacrilège qui ne fut révélé que plus tard, et elle fit bien d'ailleurs. Toute chose ayant un terme ici-bas, arriva le moment où personne n'eut plus rien à brocanter. Alors, la faveur des pèlerins menaçant de déchiqueter le cadavre lui-même, les citoyens administrateurs du district de Séclin le firent inhumer de nouveau pour lui épargner cette profanation. Sur la nouvelle tombe, l'autorité fit intelligemment reproduire la seule partie qui lui parut lisible de la grande dalle usée par les pieds et par tant de générations. Est-ce ladron ? À quoi les populations émues reconnurent que le corps miraculeusement retrouvé était celui de Saint Ladron. À la suite de cette découverte, les processions recommencèrent de plus belle. D'où l'on peut conclure que la dévotion à Saint Ladron précéda alors, en France, la restauration du culte de Dieu lui-même. On venait de Douai, d'Arras, de Tournai, de Lille, de Dunkerque, en Aimont, de l'Artois, de Flandre, du Hainaut, de la Tournaisie, pour rendre hommage aux martyrs, car on avait observé sur le cadavre des traces évidentes d'un supplice compliqué. On lui amenait des souffreteux à réconforter, des estropiés à rétablir, des femmes enceintes pour virer leurs fruits au sexe masculin, des femmes stériles pour les faire fructifier, des bestiaux malades pour les guérir, des germes pour accroître le rendement, enfin, etc., etc. Et nombre de clients plus ou moins exaucés s'en allèrent, contents, chanter au loin les louanges et le crédit céleste de Saint Ladron. Par ainsi, la réputation du bienheureux s'étendit si fort et l'engouement de ses chalands devint tel qu'avec tout le respect qui lui était dû, la foule exactée l'exhuma 31 fois pour le voir, le toucher, le frotter, le baiser et lui subtiliser de nouvelles reliques. Les citoyens administrateurs de Séclin étaient certes des hommes sages et patients, mais à la fin des fins, la patience leur faillit. Au risque de se mettre à dos tous les aubergistes et taverniers d'alentour, qui retiraient honnêtes bénéfices de cette voque extraordinaire, ils ordonnèrent que le corps de Saint Ladron fût transporté au cimetière d'Avelin, ce qui fut fait. En ce lieu, il était protégé contre toute exhibition nouvelle, la loi étant roide à l'endroit des violateurs de tombes, quels qu'ils soient. C'est là qu'il dort, dans la paix du Seigneur, au bruit flatteur des oraisons des bonnes gens. Or, il advint, quelques 20 ans plus tard, qu'un vieil antiquaire, animé d'un grand zèle pour le culte de Saint Ladron, résolut de se mettre en quête de toute chose susceptible d'élargir l'auréole de gloire de ce bienheureux, sur le compte duquel les pères de l'Église avaient gardé un silence inexplicable.
Il se transporta de sa personne vers le lieu béni où la belle église d'Entreuil couvrait naguère de ses arceaux cette tombe glorieuse et se sentit pénétré d'une joie suave quand, après avoir fouillé et retourné 1000 fragments de pierre au milieu des orties et des folles herbes, il eut réussi à rassembler les diverses parties de la dalle funéraire. La sainteté de son entreprise lui donnant force, patience et persévérance, il passa des jours et des jours à gratter, à épeler, à déchiffrer l'inscription fruste. Enfin, il réussit à la reconstituer tout entière et alors il connut la raison du silence des pères de l'Église. D'aucuns assurent qu'il en fit une grave maladie, tant il est vrai que le chemin de la vérité est rude à parcourir. En un mot commençant, aucun saint du nom de Ladron ne figurait sur les contrôles du bataillon céleste et le trépassé remis au jour par les démolisseurs d'Entreuil était simplement, de son vivant, un Espagnol de qualité. Haut et puissant homme, Don Luis Ladron de Guevara, maître de camp, gouverneur d'Ostende pour sa majesté catholique, le roi de toutes les Espagnes, époux de la noble dame Charlotte Alangubeng du Vertois, d'Embreuil, Marc, en Pével et autres lieux. Ouf ! Eh bien, duquel il est parlé pour sa gloire militaire dans les écrits de Strada et du seigneur de Brambeau. Qui naquit à Anduxar et périt âgé de 80 ans au combat de Nieppe le 8 avril de l'an 1639, ayant un biscaïne dans l'épaule, une mousquetade dans le dos et trois grands coups de rapière au travers de la tête. Ouf. Il n'en faut pas tant pour oxyre un homme honnête, et le seigneur de Guevara avait certes bien gagné le droit de se reposer son sou. On lui avait choisi pour cela l'église de son domaine d'Entreuil, où le sol était sec et calcaire. Et le bon état dans lequel on l'a retrouvé, un siècle et demi plus tard, prouve que ses héritiers étaient gens experts en la matière. Sans aucun doute, le vieux brave aurait conservé ses avantages jusqu'au moment où le clairon des archanges sonnera le bout de sel du jugement dernier, si les gens d'Avelin ne l'avaient ainsi canonisé d'autorité. Au surplus, comme c'était à bonne intention, il n'est pas fondé à s'en plaindre, encore qu'il soit probablement gaussé de la méprise du haut de cieux, où je veux croire que Dieu a recueilli son âme, l'âme du grand d'Espagne. Quant aux bonnes gens d'Avelin, on leur a caché avec soin la découverte incongrue de l'antiquaire, à la seule fin de ne point leur faire chagrin. Aussi ont-ils pieusement conservé leur dévotion à ce saint qui n'existe pas, lequel d'ailleurs continue à mériter leur confiance en laissant guérir ceux qui doivent guérir et crever ceux qui doivent crever. On a même vu plusieurs névroses disparaître subitement après une neuvaine faite avec la conviction convenable sur la tombe du maître de camp. Ce qui prouve combien les hommes doctes ont raison de dire que c'est la foi qui sauve.
On va passer du froid au chaud. Retour pour notre épopée égyptienne,
oui.
C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Hein, on va essayer de faire un petit truc comme ça sympa.
Alors, je vous rappelle qu'il s'agit au fil des émissions de découvrir comment Ptolémée Césarion a été éduqué à la vie d'homme sage par le scribe de sa mère Cléopâtre, reine d'Égypte. Ceci à travers différents récits de contes et légendes.
Ce deuxième conte, puisqu'on a fait le premier il y a 15 jours, s'appelle « Le naufragé de l'île des merveilles ». Chaque fois, il y aura une moralité, puisque s'il s'agit bien, effectivement, Agathe, de l'éducation, donc de cet enfant. Un jour, au temps où les serpents avaient un roi qui parlait le langage des hommes, des chars ployant sous un riche chargement s'arrêtèrent devant le palais du grand pharaon. Un inconnu, vêtu comme un marchand, se présenta à l'intendant du palais. « Digne seigneur, dit l'homme quand les serviteurs l'eurent amené devant l'intendant, j'apporte à ton souverain, le glorieux pharaon, les richesses de l'île des merveilles, le cadeau fabuleux du roi de tous les serpents. Je m'adresse à toi afin que tu me conduises devant notre roi pour que je lui relate mon étrange aventure et que je lui transmette le salut du serpent roi.
Tu es un homme audacieux, étranger, répondit l'intendant du palais. Tu me plais. Je crois vraiment que tu apportes de précieux cadeaux et les salutations du serpent roi. Mais sache que le temps de notre souverain est compté. J'écouterai moi-même d'abord ton récit et, s'il est aussi fabuleux que tu le prétends, je te conduirai devant le pharaon.
Il y a 6 mois environ, commença le voyageur, que je quittais les rivages de l'Égypte. Je partis en mer sur ordre du pharaon pour visiter la vallée des rois, loin, au sud de notre pays. J'avais un fier vaisseau et les 120 000 meilleurs matelots d'Égypte avaient embarqué à son bord. Leur cœur était plus audacieux que celui du lion et leur fidélité ne se serait laissée acheter ni par tout l'or du monde, ni par les pierres les plus précieuses. Ils savaient prévoir la tempête même quand le ciel resplendissait et annoncer les vents et la pluie avant qu'on ne voie le moindre signe. Nous avons navigué pendant des jours, nous avons navigué pendant des semaines et le temps nous était favorable. Mais un jour la tempête s'annonça. Nous n'eûmes pas le temps de gagner un rivage et l'ouragan nous entraîna vers la haute mer. Nous nous battîmes comme des lions contre les éléments déchaînés, mais en vain. Sous les grondements terrifiants du tonnerre, les flots submergèrent notre vaisseau et tous les matelots se noyèrent. Moi seul fus sauvé par le miracle. Je saisis un morceau de bois et je m'y cramponnai avec l'énergie du désespoir. Le matin, le ressac me déposa, épuisé et trempé jusqu'aux os, sur un rivage inconnu. Je restai 3 jours, gisant sous les branches des arbres, si recru de fatigue que je ne pouvais faire un mouvement. Mes seuls compagnons dans cette affreuse solitude étaient les branches des arbres qui me protégeaient des ardeurs du soleil et mon cœur qui me retenait à la vie. Finalement, la faim et la soif me donnèrent la force de me lever pour inspecter l'endroit. Je me trouvais sur une île entourée de tous côtés par une mer immense. Par bonheur, les fruits étaient abondants, sur les figuiers et sur les hauts palmiers. Tous ces fruits mûrs embaumaient. Je trouvais, sortant de terre, de grosses pastèques et des concombres comme on n'en vit jamais. Les rivières étaient pleines de poissons et, dans les airs, des milliers d'oiseaux bariolés faisaient entendre leur chant harmonieux. Des fleurs merveilleuses et des plantes magnifiques parsemaient l'herbe verte. Et nulle part la moindre trace d'être humain pour cultiver ou récolter toutes ces richesses. Je cueillis des fruits jusqu'à ce que j'en aie les mains pleines et je m'en rassasiais. Puis, j'allumai du feu. Je voulais en effet présenter une offrande à Ré, le Tout-Puissant, pour le remercier d'avoir épargné ma vie. Tout à coup, j'entendis derrière moi un terrible grondement. Je crus que c'était le fracas du tonnerre et les bruits des vagues. Je pensais qu'un nouvel ouragan s'annonçait. Les arbres fermirent et craquèrent et la terre trembla sous mes pieds. Terrifié, je me cachai le visage dans les mains. De ma vie, je n'oublierai la peur que j'éprouvais quand j'écartai mes mains. Je vis un serpent monstrueux qui s'avançait vers moi. Il mesurait au moins 30 aunes et portait une barbe interminable. Son corps puissant était couvert d'écailles dorées. Ses yeux étincelants étaient bordés d'autres écailles d'un bleu clair. Je me jetai à plat ventre sur le sol, n'osant plus respirer. Le serpent encercla le lieu où j'étais étendu, dressa au-dessus de moi sa tête et siffla. « Psss ! Qui t'a amené ici, petit homme ? « Réponds-moi, qui t'a indiqué le chemin de mon île ? N'aie pas peur et dis-moi la vérité, sinon je te réduirai en cendres et plus personne ne te reverra vivant. Parle, le roi de tous les serpents attend ta réponse. » La terreur arrêtait les mots dans ma gorge. Alors le monstre ouvrit sa gueule, il me saisit entre ses crocs et me traîna avec précaution dans la grotte. Là, il me déposa sur le sol. J'étouffais d'angoisse. Pourtant, j'étais sain et sauf.
Thank you.
Le serpent ouvrit encore la gueule et il me demanda. « Psst ! Qui t'a amené ici ? Dis-moi qui t'a amené sur mon île alors qu'elle est de toutes parts entourée d'eau ?» Je m'efforçais de vaincre mon effroi. Je me prosternais devant lui, frappais la terre de mon front et lui contais mon aventure. « Ne crains rien, petit homme, dit alors le serpent. Ne crains rien. Chasse la pâleur de ton visage et reprends tes esprits. Tu es venu jusqu'à moi et je t'épargnerai. Remercierai le Tout-Puissant qui t'a conduit sur l'île merveilleuse d'abondance. Ici sont amoncelés tous les trésors et toute la richesse du monde. Écoute, voici quel sera ton destin. La lune succédera à cette lune et, quand son dernier quartier brillera, un vaisseau arrivera venant de ton pays et, à son bord, tu trouveras des matelots que tu connais. Tu retourneras chez toi où tu retrouveras ta femme et tes enfants et c'est dans ton village que tu achèveras ta vie. Que je te dise mon malheur qui est semblable au tien. Jadis, je ne vivais pas seul sur cette île. J'avais avec moi mes frères, mes sœurs, nos enfants, tous de la royale tribu des serpents qui parlent la langue des hommes. À tous, je préférais ma fille, la plus jeune. Elle était tout pour moi. Elle était la joie de mon cœur. Un jour que de l'autre côté de l'île, j'examinais nos trésors, je vis dans les cieux une gigantesque langue de feu qui se précipita sur l'île. Je me hâtais pour retrouver ceux que j'aimais, mais j'arrivais trop tard. Des cieux était tombée une étoile de feu et de ses flammes avaient consumé tous mes compagnons. Je crus mourir de douleur quand je ne retrouvais d'eux qu'un petit tas de cendres. Pourtant, je survécus à mon chagrin. Et toi aussi, tu ressemonteras ton chagrin et ta douleur. Si tu as du courage, bien sûr. Pleure tes malheureux compagnons, mais réjouis-toi de retrouver bientôt ceux qui te sont chers. Crois-moi, tu pourras à nouveau embrasser ta femme et tes enfants et tu reverras la maison où tu es né. Je remerciai le serpent de ses paroles bienfaisantes, je me prosternai en signe d'hommage et je lui dis « Je conterai ton histoire au glorieux Pharaon, souverain d'Égypte et maître du monde. Je lui parlerai de ton île, des merveilles et de ta bonté, de ta générosité et de ton courage. Puis, je chargerai un navire d'huiles odorantes, de parfums, d'onguents, d'encens et de tous les trésors de l'Égypte. Je te les enverrai comme au meilleur ami de l'Égypte, que les Égyptiens n'ont jamais vu, mais qu'ils aiment et qu'ils admirent. Et je tuerai des taureaux et d'autres animaux que j'offrirai à Ré afin qu'ils te protègent et te chérissent. » Le serpent sourit et répondit. Je t'ai dit que mon île est le séjour de l'abondance. Elle recèle tous les fruits de la terre, toutes les plantes utiles, toutes les bêtes et toutes les pierres les plus précieuses. Dans les vastes entrailles de son sol sont réunies toute la richesse du monde. Pourquoi porter les richesses de ton pays dans cette île lointaine? Autant offrir à la mer une goutte d'eau. Et c'est en vain que tu chercheras à revenir ici. Jamais tu n'en retrouveras le chemin. Moi, je m'enfoncerai dans les profondeurs pour retrouver la nation des serpents. L'île s'engloutira dans les flots pour ne plus émerger. Jamais. Au début, je connus sur cette île un bonheur sans nuages. J'y trouvais des douceurs dont je n'avais jamais rêvé. Chaque jour, je me baignais dans une eau azurée, me dorais au soleil et je me reposais à l'ombre des grands arbres. Je me nourrissais des fruits succulents que donnaient toutes sortes d'arbres. Le soir, je préparais de délicieux dîners avec la viande des bêtes que j'avais chassées. Pourtant, la solitude finit par me peser. Comme j'aurais voulu parler à quelqu'un, voir un visage humain. Je soupirais autant ma patrie, que je brûlais du désir d'embrasser ma femme et mes enfants. La lune succéda à la lune et plus le temps passait, plus je grimpais sur l'arbre le plus haut, surveillant l'horizon pour y guetter l'arrivée d'un vaisseau. Enfin, après un temps très long, j'aperçus un vaisseau. J'escaladai mon arbre vivement pour faire des signaux. Le vaisseau se dirigeait droit sur l'île. Bientôt, je pus reconnaître le visage des matelots. Je redescendis de mon arbre pour aller annoncer la nouvelle au serpent. « Je sais ce que tu veux me dire, petit homme, » dit le roi serpent. « Tu as vu un vaisseau qui vient de ton pays et tu as reconnu quelques-uns de tes amis. Je te souhaite un retour favorable. Salue pour moi le glorieux pharaon et la terre natale. Et maintenant, viens avec moi. » Il rampa devant moi. Son corps plein de vigueur me traçait un chemin parmi les roches et les buissons jusqu'à l'autre côté de l'île. Nous fîmes halte devant un énorme rocher et le serpent émit trois sifflements stridents. La roche s'entr'ouvrit et dévoila l'entrée de la grotte au trésor. La grotte était immense et ses parois étincelaient d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ces vastes salles souterraines recelaient toutes les richesses dont on aurait pu se parer. Le serpent me fit cadeau de myrte, d'huiles odorantes, d'encens rares, de précieux onguents, de teintures pour les yeux, de queues de girafe, de défenses d'éléphants, de bois précieux et de fourrures. Il y ajouta une meute de lévriers, des troupeaux de paons et de singes. Je me prosternai devant lui et le remerciai pour tous ses trésors.
Dans 2 mois encore, tu retrouveras ta demeure et tu embrasseras ta femme, tes enfants et ton cœur sera plein de joie. Quand tu mourras, tes enfants t'enseveliront dans ton sol natal, dit le serpent roi. Je fis mes adieux au généreux serpent et je chargeai mes trésors sur le navire. Nous partîmes et je restai à faire des signes au serpent roi jusqu'à ce que les vagues me cachent l'île et qu'elles disparaissent à ma vue. Nous avons navigué pendant 2 mois en direction du nord et nous avons enfin touché au rivage d'Égypte. Dès que j'eus débarqué, je chargeai mes trésors et je me précipitai vers vous, dans notre capitale. « Je t'en prie, digne Seigneur, conduis-moi au glorieux Pharaon, qu'il vive et demeure vivant éternellement et à jamais. Je veux lui conter mon aventure et déposer à ses pieds les présents merveilleux du serpent roi. »« Tu m'as conté, voyageur, une incroyable histoire qui réjouira sûrement le cœur du glorieux Pharaon, » reprit l'intendant du palais. « Suis-moi et sois assuré que notre souverain te récompensera avec générosité. » Pharaon écouta, fasciné, le récit de cette surprenante aventure. En récompense de ses fidèles services et des trésors qu'il rapportait, le souverain donna au navigateur une maison dans le palais de la haute dignité du commandant de la flotte. Pourquoi s'abandonner au chagrin et se laisser gagner par le désespoir? Un homme, digne ce nom, doit aller de l'avant, d'un cœur ferme et confiant, croire au bonheur, à l'amour, à un heureux destin pour lui et ses enfants. Pleurs et gémissements n'ont jamais porté chance.
Mais Agathe, j'ai une petite histoire encore justement de 4 minutes, donc on a peut-être le temps d'en faire profiter nos auditeurs, qui est sur la naissance du lotus et du papyrus. Au temps où nos ancêtres croyaient que les hommes, après leur mort, se réincarnaient dans un animal, une plante ou un arbre, vivait dans un bois ombreux des bords du Nil un vieux jardinier. Auprès de sa demeure, il y avait un jardin qui débordait des plus belles fleurs et embaumait des parfums les plus doux. Il y poussait des palmiers, des vignes, des oliviers, des figuiers, des cyprès, des orangers, des grenadiers. Tout ce dont Ré, le Tout-Puissant, a gratifié la terre d'Égypte, y poussait et y fleurissait. Le jardinier cultivait son jardin depuis 100 ans. Il pleurait 3 épouses, mais Ré, le Tout-Puissant, lui conservait la vie. On eût dit que la mort l'avait oublié. Pourtant, le vieillard aurait aimé connaître une autre vie. Sa dernière épouse lui avait donné 2 filles. Elles étaient si belles qu'on en parlait loin à la ronde et que les prétendants se succédaient dans la demeure. La renommée des belles jeunes filles parvint jusqu'à la cour du glorieux pharaon. Si bien qu'un jour, les courtisans du pharaon se présentèrent à la chaumière du jardinier pour voir ses filles. Dès qu'ils les eurent aperçues, ils prièrent le vieillard qu'elles puissent les suivre à la cour du pharaon où elles deviendraient les servantes de son épouse. Mais les jeunes filles étaient heureuses dans leur univers fleuri. Elles s'occupaient avec tendresse de leur père qui leur enseignait son art. Nul ne sait comment s'y prit le vieux jardinier pour expliquer aux envoyés du pharaon que ses filles resteraient avec lui. Ceux-ci s'en retournèrent, très étonnés, que le vieillard ait repoussé une pareille chance. D'autres étaient venus vers eux, les avaient priés et auraient tout donné pour que leurs filles soient reçues à la cour. Vint l'automne. C'est le temps où le Nil quitte son lit et couvre de ses eaux les rives et les champs. La crue du Nil signifie d'abondance et richesse pour tout le pays. Cette année, par malheur, le Nil déborda peu. La population invoqua Ré, le Tout-Puissant, le priant d'alimenter les sources du fleuve, mais ce fut sans succès. Le Nil ne grossit pas d'un pouce. Les prêtres expliquèrent aux paysans que Khnoum, le puissant dieu, fils de Ré, dont le séjour est sur le Nil, désirait que les hommes lui fissent offrande. Les prêtres et les savants égyptiens décidèrent qu'il fallait offrir à Khnoum une jeune fille, la plus belle qu'on pût trouver dans la vallée du Nil, pour qu'il redonne aux hommes ses bienfaits. Ils se souvinrent du vieux jardinier qui avait osé refuser de laisser venir ses filles à la cour. Cette fois, ils ne pouvaient se dérober. Ils vinrent donc chez le vieillard et emmenèrent la plus jeune de ses filles. L'aîné courut derrière eux et les supplia de la laisser accompagner sa sœur. Le vieux jardinier suivait en gémissant le sinistre cortège. Le peuple, déjà, s'était rassemblé sur la rive. Au sommet d'un rocher qui dominait le Nil, les prêtres et les sages chantaient un hymne à la gloire de Khnoum le puissant.
Salut à toi, ô Knoum, grand et puissant. Et le cœur des gens assemblés reprenait. Salut à toi, Knoum, grand et puissant, toi qui chaque année nous apporte vie et richesse. Montre-nous un visage souriant, donne-nous confiance à nouveau dans la vie et le bonheur. Les prêtres et les sages répétèrent trois fois leur chant de grâce, entendirent leurs mains au-dessus du fleuve, puis ils restèrent immobiles comme pétrifiés. La fille Gadette était étendue sur une saillie de rochers et sa sœur la serrait dans ses bras. Le grand prêtre s'approcha d'elle, leva son bras vers le ciel et reprit ses incantations. Puis s'avancèrent des esclaves porter la jeune fille au bord du rocher. Mais voyant que les deux enfants étaient mortes, ils s'arrêtèrent. Ils n'observèrent que deux petites pousses vertes qui étaient apparues parmi les pierres. Le peuple se dispersa. Les prêtres et les sages quittèrent à leur tour la place. « Le puissant Knoum a accepté l'offrande !» cria le peuple. Le jardinier emporta dans son jardin le corps de ses deux filles et il les enterra, portant sa douleur. Il planta sur leur tombe les plus belles fleurs de son jardin. Quel ne fut pas son étonnement quand, le lendemain matin, il vit sur la tombe de la plus jeune une fleur qu'il ne connaissait pas, blanche comme la neige. Elle semblait être un grand lys. De partout, on vint pour s'incliner avec respect devant cette fleur inconnue. Les sages vieillards lui donnèrent le nom de Lotus. Sur la deuxième tombe, celle de la fille aînée, poussa une jolie plante qui ne portait pas de fleurs, mais une couronne de clair feuillage. Les sages lui donnèrent le nom de Papyrus. De ses feuilles, ils firent des rouleaux sur lesquels ils consignèrent leurs écrits.
Et oui, déjà, ça s'est vraiment passé vite ce moment avec toi, Dominique.
C'est gentil.
Et je te remercie. Vous retrouverez, je pense, avec beaucoup de bonheur, les aventures de Ptolémée Césarion très prochainement. Une épopée vraiment captivante.
Oui, parce qu'en plus, ça change quoi comme histoire. Je trouve que c'est, en plus, quand on le ramène à ça, alors je ne sais pas si c'est la vérité, j'ai pas été épuisée, si ça, mais bon, c'est toujours intéressant de voir ces belles légendes égyptiennes. J'ai toujours été fascinée par l'Égypte et je retrouve mes sources là d'inspiration.
Oui, et je pense que tu n'es pas la seule
ouais,
dans ce cas-là.
Parce qu'enfant, tout le monde a été captivé par les pyramides et tout ça.
Alors, rendez-vous très très bientôt, Dominique.
Bien sûr, sans souci.
On va vous remercier toutes et tous d'avoir
merci
suivi
beaucoup,
cette émission. Et à très bientôt.
À bientôt.